14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Les deux cadavres retrouvés hier en forêt de Fontainebleau sont vraisemblablement ceux de Gilles Naudet et d'Anne-Sophie Vandamme disparus en octobre dernier dans la région. Je dis vraisemblablement car il faudra attendre l'autopsie aujourd'hui pour en être tout à fait certain.
Bonjour, les fiancés de la forêt de Fontainebleau. Ce pourrait être le titre d'un roman à l'eau de rose, mais c'est un roman noir que l'on feuillette depuis exactement 33 ans, sans que l'on ait jamais pu écrire le dernier chapitre, l'épilogue de cette étrange affaire. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme avaient tous les deux 25 ans quand ils ont été abattus, ainsi que leur chien dans le décor champêtre de cette forêt de l'Île-de-France, lieu de promenade des amoureux et paradis des chasseurs. C'est d'ailleurs vers eux, vers les chasseurs, que vont se tourner immédiatement les enquêteurs pour tenter d'éclaircir ces meurtres. Des chasseurs auraient-ils tué Gilles et Anne-Sophie, ou bien s'agissait-il de malfrats, ou pourquoi pas de paramilitaires? Un livre qui sort ces jours-ci, Les fiancés de Fontainebleau, la faillite de la justice, revient sur ces questions et ouvre de nouvelles pistes. Questions que nous poserons aujourd'hui à son auteur, Christian Porte, l'un de nos invités dans cette heure du crime.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le double meurtre des fiancés de Fontainebleau, Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, avaient subitement disparu le lundi de la Toussaint 1988. Ce mardi 10 janvier 1989, vers 12h15, quatre chasseurs pistent un sanglier blessé en forêt de Fontainebleau dans le massif de Coquibus. La troupe progresse sous les arbres, se fraye un chemin entre les hautes bruyères et les genêts jusqu'au lieu-dit La Mare aux Joncs. L'un des hommes est attiré par une chaussure de tennis blanche qui semble émerger sous quelques branchages. Les chasseurs s'approchent. Il y a là deux corps, un homme allongé sur le ventre, vêtu d'un pull-over remonté jusqu'à la nuque, un anorak gris est posé sur le bas de son dos. Une femme, elle, allongée sur le dos, bras droit replié, le bassin en partie découvert, les jambes couvertes d'un gilet de laine verte. Elle a des tennis aux pieds. Sa montre fonctionne. Entre l'homme et la femme, il y a le cadavre d'un petit chien blanc, porteur d'un collier portant son nom et un numéro. Il va falloir identifier ses corps en décomposition, mais pour les gendarmes, il y a peu de doute. Il s'agit de Gilles Naudet et de Anne-Sophie Vandamme, tous deux âgés de 25 ans, et de leur petit chien qui s'appelle Dundee. Ils étaient portés disparus depuis le 31 octobre 1988, le lundi de la Toussaint. Seule leur voiture, une Peugeot 304, avait été découverte sur le parking de la Feuillandière, un lieu propice pour emprunter le GR11, un sentier de grande randonnée. Au lendemain de la découverte, les recherches reprennent dans le massif de Coquibus, une zone en partie marécageuse et difficile d'accès. Le procureur d'Evry, Roger Lucas, et la juge, alors chargée de l'affaire Xavier Simeoni, supervisent le ratissage des gendarmes et les travaux des spécialistes de l'identité judiciaire. Ils trouvent plusieurs indices, un caban bleu, une manche de pull-over, deux dents, mais surtout deux douilles de 22 longs rifles portant l'inscription R et huit autres, toujours de calibre 22. Une munition peu courante pour partir à la chasse dans ce coin boisé où l'on vit surtout sangliers et cervidés avec du 16 ou du 12 mm. De leur côté, les légistes examinent les corps des victimes. Gilles Naudet a été tué d'un tir de petit calibre dans la nuque. Il a été touché également à l'épaule et au visage. Anne-Sophie Vandamme a elle aussi reçu une balle dans la tête. Une autre est entrée et ressortie au niveau du cou. Le chien Dundee a été exécuté de la même façon. Des balles dans le thorax et la tête. L'autopsie livre ainsi un scénario qui fait froid dans le dos. Après avoir été blessé par plusieurs tirs de 22 longs rifles, Gilles Naudet, Anne-Sophie Vandamme et le chien Dundee auraient été achevés d'une balle tirée à bout portant. Il s'agit bien d'une exécution. Les corps auraient été traînés hors du sentier de randonnée pour être hâtivement recouverts de fougères. Les experts estiment que deux tireurs sont impliqués. Qui pouvait en vouloir à Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, un couple d'amoureux qui n'a jamais fait parler de lui? Lui, physique plutôt sportif, était guichetier à l'agence du Crédit Mutuel de Créteil dans le Val-de-Marne. Elle, fille du maire de Voisin-le-Bretonneux dans les Yvelines, était assistante sociale pour une société de HLM. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt lors d'un stage d'équitation et avaient décidé de vivre ensemble. Ils ont été tués en même temps, jour de l'ouverture de la chasse au gros gibier. Pour la justice, qui a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire. Il ne s'agit en aucun cas d'un accident de chasse, mais d'un geste délibéré. Les corps n'avaient pas pu être découverts lors des battues menées après les disparitions. Les enquêteurs s'interrogent alors sur un possible transport post-mortem. Selon un botaniste, les fougères recouvrant les cadavres auraient été coupées 8 jours seulement avant la découverte. L'enquête des gendarmes bat son plein pour retrouver les auteurs de ce massacre en forêt. Le monde des chasseurs est évidemment passé au crible. Il va toutefois falloir attendre des années pour obtenir peut-être un début d'explication. Les gendarmes estiment que le ou les auteurs de la tuerie du massif de Coquibus sont des familiers de la forêt. Des traces d'un véhicule 4x4, peut-être une Lada Niva, ont été retrouvées non loin de la scène de crime. Mais ce genre de véhicule est monnaie courante par ici. Les enquêteurs recensent toutes les battues qui ont eu lieu le lundi 31 octobre 1988, jour où le couple a disparu. Les itinéraires parcourus par les groupes de chasseurs sont établis. Des témoignages pointent du doigt les braconniers qui arpenteraient le coin et profiteraient des battues légales pour s'emparer du gibier. Des clandestins utilisant des fusils 22 longs rifles, parfois munis de lunettes et de silencieux pour éviter d'attirer l'attention. Les armes du crime sont recherchées lors de perquisitions dans plusieurs maisons du coin, sans résultat. Les marchands d'armes et de cartouches sont interrogés, là aussi, en vain. Les auditions de témoins, chasseurs ou braconniers supposés ne font pas avancer le dossier. Au fil des mois, puis des années, les investigations se perdent dans le dédale de la forêt de Fontainebleau. Le 13 janvier 1998, 13 personnes sont ainsi interpellées et placées en garde à vue à la brigade de Fontainebleau. Sans suite, en 9 ans d'enquête, 1600 fusils ont été examinés, plus de 600 personnes entendues et 4500 pages de procès-verbaux rédigées. Coup de théâtre, le jeudi 11 février 1999. 3 hommes sont arrêtés, l'un dans l'Hérault, l'autre dans le Pas-de-Calais, le troisième dans l'Essonne. Il y a dans ce trio le prénommé Cédric, 28 ans. Il étudie la criminologie à l'université de Montpellier. Il avait 17 ans à l'époque des crimes. Jean-Bernard, son père, commandant de bord de la société Air Inter, est également en garde à vue. Tout comme Marcel, un ami commun du père et du fils, tous sont des chasseurs émérites, passionnés d'armes et de battues. C'est le témoignage d'une habitante de la région de Fontainebleau qui a donné le tuyau aux gendarmes, indiquant que Cédric serait l'un des meurtriers du couple au petit chien. Interrogé, le jeune homme avoue rapidement sa participation au crime. Il implique son père et l'ami de la famille. Ces derniers démentent leur participation. En 38 heures de garde à vue, Cédric va donner pas moins de 4 versions différentes. Avec Marcel, il aurait tiré en entendant un bruit et aurait touché par accident une personne. Il raconte ensuite qu'il était avec son père. Les deux auraient malencontreusement touché un promeneur. Cédric aurait achevé l'homme et la femme. Il dira ensuite être le seul tireur, même si 2 armes ont été utilisées. Des versions confuses, mais qui abondent de détails sur les victimes, notamment leurs vêtements et la manière dont elles ont été tuées. En fin de garde à vue, la juge met les 3 hommes en examen pour homicide volontaire. Le principal témoin et accusateur, Cédric, ne tarde pas à revenir sur ses aveux devant la magistrate. Il déclare avoir dit n'importe quoi sous la pression des gendarmes. Il est le seul alors incarcéré à Fresnes. Il affirme qu'il se trouvait avec sa petite amie au moment des faits. Cédric, dont la famille habitait Gironville dans l'Essonne, a commencé à chasser alors qu'il était tout jeune, partageant sa passion avec son père. Il est décrit par des témoins comme un adolescent chamailleur, toujours vêtu de tenues paramilitaires qui lui valaient le surnom de Rambo. Avant d'étudier à Montpellier, il avait suivi des cours d'armurerie à Liège, en Belgique. Il ne s'entendait plus depuis longtemps avec une bonne partie de sa famille, ses sœurs et son père. Malgré ses dénégations et les protestations de ses défenseurs, Cédric reste en prison. Il est soupçonné d'être le tueur des amoureux de Fontainebleau. Se profile pour lui un renvoi devant une cour d'assises. Ce 20 novembre 2001, Cédric est dans le box de la cour d'assises pour mineurs de l'Essonne à Évry. Il a 31 ans, il en avait 17 au moment des faits. L'audience se tient à huis clos. Ses trois avocats veulent démontrer que leur client a avoué sous la pression énorme des gendarmes. Il n'y a rien de solide contre lui, pas d'éléments matériels, pas d'armes, pas de relevé ADN, dit la défense. Les parents de Gilles Naudet et sa sœur Joëlle sont là, tout comme ceux de Anne-Sophie Vandamme et l'une de ses sœurs. Les témoins défilent et ne dissipent pas les interrogations qui planent sur l'affaire. Les 8 gendarmes qui ont conduit la garde à vue de Cédric à Montpellier sont appelés à s'expliquer. Ils sont pris à partie par les avocats de l'accusé. À la sortie de cette audience, l'un d'eux, maître Franck Nathalie, est satisfait. Il est établi, selon lui, que Cédric n'a pas pu se reposer en 38 heures. Une pression inadmissible qui expliquerait ses aveux en garde à vue. Après 9 jours d'audience, les familles des victimes indiquent devant les jurés avoir la conviction que Cédric est bien coupable. Ils somment alors l'accusé de dire la vérité. Après 2h45 minutes de réquisition, l'avocat général demande une peine de 25 à 28 ans pour les homicides volontaires d'Anne-Sophie Vandamme, de Gilles Naudet et de leur petit chien. La magistrate demande aux jurés de ne pas retenir l'excuse de minorité. Le vendredi 30 novembre, le jury se retire pour établir son verdict. Vers 20h, le président de la cour d'assises, Alain Verlaine, annonce que Cédric est acquitté. L'accusé tombe dans les bras de ses avocats. Les familles des fiancés de Fontainebleau sont consternées. Tout semble donc à refaire pour les enquêteurs, même si 13 ans après les faits, les chances de retrouver le ou les meurtriers des fiancés de Fontainebleau paraissent des plus ténues. Lors du procès de Cédric, alors suspect numéro 1, le témoignage d'un agent de l'Office national des forêts, l'ONF, avait troublé l'audience. Celui-ci avait raconté que son chef de l'époque, Patrick G., lui avait demandé en décembre 1988 de nettoyer la maison forestière. À cette époque, personne ne savait ce qu'il était advenu de Gilles Naudet et de Anne-Sophie Vandamme. Patrick G. aurait toutefois formulé une demande pour le moins curieuse. Il aurait demandé qu'on trouve les clés de la cave de la maison, car il avait peur qu'on y découvre les corps des disparus de Fontainebleau. L'agent de l'ONF aurait constaté que la maison était sale et en désordre, à l'exception de la cave nettoyée. Le président de la cour d'assises, qui souhaitait entendre comme témoin Patrick G., apprendra avant le procès que celui-ci s'était suicidé en 1994. Un autre mystère concerne la présence de groupes paramilitaires dans la forêt de Fontainebleau. L'un des avocats de Cédric avait à l'époque demandé à la juge d'instruction d'éclaircir l'hypothèse de séances d'entraînement au tir dans le secteur du massif des Trois Pignons et celui de Coquibus, la zone du crime, afin de déterminer si le jeune couple ne serait pas tombé dans une embuscade où des hommes s'exerçaient à tirer à balles réelles sur tout ce qui bouge. Cette demande n'avait pas été suivie. La piste paramilitaire ne sera jamais explorée par les juges d'instruction successifs et par la section de recherche de la gendarmerie de Paris. Malgré les doutes, l'enquête sur les morts de Gilles Naudet, Anne-Sophie Vandamme et de leur chien Dundee va finir par s'éteindre. Aucun acte d'instruction ne viendra interrompre la prescription. En cette année 2011, soit 23 ans après la disparition et les meurtres de Gilles Naudet, de Anne-Sophie Vandamme et de leur petit chien, la justice referme définitivement le dossier. L'action de justice vient de s'éteindre, gagnée par la prescription. En fait, après l'acquittement du chasseur Cédric en 2001, le dernier juge d'instruction n'a plus fait aucune demande dans cette affaire. L'enquête s'est naturellement arrêtée en dépit des doutes persistants et des demandes des familles des victimes, soucieuses de connaître la vérité. Des proches brisés par cette longue procédure et l'absence de réponse. L'adjudant-chef Dominique Bélanger, officier qui avait supervisé pendant plus de 10 ans les investigations, se disait pour sa part très déçu. C'est beaucoup plus dur pour les familles des victimes qui doivent vivre cette décision comme un véritable échec, indiquait-il au journal Le Parisien. L'affaire des fiancés de Fontainebleau, affaire classée et non résolue, restera-t-elle à jamais un mystère ?
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.